La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un mouvement d'insurrection absolument inédit. Voilà comment Emmanuel Macron qualifie les émeutes en Nouvelle-Calédonie, où il est en déplacement ce matin et avant d'entamer des discussions politiques, là dans les prochaines minutes, entre indépendantistes et loyalistes. Marseille va dire adieu à Jean-Claude Gaudin cet après-midi, l'ancien maire de la ville, obsèque à la cathédrale de la Major. Et puis tout le monde veut sa prime JO après les cheminots à qui la SNCF propose 95 euros par jour. C'est le monde de la sécurité qui veut sa part du gâteau et qui appelle déjà à la grève.
Et la réaction à 8h30 de Sophie Binet. Sophie Binet, la patronne de la CGT. Elle sera donc mon invitée sur RMC et BFM TV au lendemain de la publication des premiers détails de cette prochaine réforme aussi de l'Assemblée de l'assurance chômage. Elle sera reçue d'ailleurs tout à l'heure par la ministre du Travail. Emmanuel Macron s'adresse aux policiers ce matin en Nouvelle-Calédonie.
Oui, le président parle d'un mouvement d'insurrection absolument inédit. Donc, dans l'archipel depuis la semaine dernière, Emmanuel Macron qui vient de passer une heure avec les forces de l'ordre dans un commissariat de Nouméa avant des opérations d'envergure annoncées sur place pour rétablir l'ordre. Emmanuel Macron est donc arrivé tard hier soir en Nouvelle-Calédonie pour tenter de rétablir le calme. Il promet de prendre des décisions. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Cyprien Pézeri, du service politique RMC en direct ce matin. Emmanuel Macron va maintenant rencontrer les forces politiques calédoniennes.
Oui, alors que ça fait déjà plus de 8 heures qu'Emmanuel Macron est sur l'archipel, le plus dur sans doute commence. Comment sortir de la crise entre loyalistes et indépendantistes? Le ton sévère et la mine grave, le chef de l'État a esquissé à son arrivée ses lignes rouges.
Non, il nous faut reprendre dans l'intégralité des choses et voir aussi comment trouver ce que j'appellerais l'apaisement constructif. Mais l'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut pas être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait.
Ce que dit ici Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas question de remettre en cause les trois référendums et le non à l'indépendance exprimé dans les urnes. En revanche, il ne dit rien sur l'avenir de la réforme qui a mis le feu aux poudres, celle qui définit qui peut voter ou non aux prochaines élections provinciales. Mais le retrait est un préalable, prévient cet indépendantiste du CCAT ce matin sur un barrage de Nouméa.
C'est simple, s'il dit qu'il va maintenir cette loi, je ne pense pas qu'il y aurait de dialogue pour la suite. Parce que nous, nous sommes déterminés, nous le resterons pour aller chercher notre pays, la Kanaky.
Alors on ne sait pas quelle sera la tournure des discussions, qui va y participer. Le programme ne cesse d'évoluer, aucun scénario n'est écrit à l'avance, jure l'entourage du président. Emmanuel Macron qui promet des annonces à l'issue des échanges. À la question 12 heures seulement sur place, est-ce suffisant? Il prévient, je n'ai pas de limite et pourrais donc rester plus longtemps que prévu.
Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, donc il ne sera pas à Marseille aujourd'hui, représenté par son épouse Brigitte Macron aux obsèques de Jean-Claude Gaudin, le maire de la ville pendant 25 ans. Cérémonie à 15h cet après-midi, cathédrale de la Major. Le cortège funèbre va longer la mer depuis le quartier Mazargues, le quartier de Jean-Claude Gaudin où il sera enterré et où les Marseillais rendent hommage à leur ancien maire dans une chapelle ardente sur place. Margot Boult pour RMC.
Des Marseillais entrent et sortent de la maison au mur de crépi beige. À l'intérieur, le corps de Jean-Claude Gaudin est exposé. Martine vient de sortir.
Il y avait son cercueil, il avait un chapelet sur ses mains. Et moi, je n'arrive pas à réaliser qu'il n'est plus là, quoi. Oui, qu'il est parti.
C'est avant tout son ancien maire qu'Alain est venu saluer.
C'était un homme qui a manqué Marseille. Il laisse une présence, puis une façon d'être, un parler marseillais.
Un phrasé, mais aussi une personnalité, rappelle Mireille. Cette fonctionnaire municipale sort de la maison, les lèvres tremblantes d'émotion.
Il avait toujours, à la fin d'un discours, une phrase un peu... Il avait toujours de l'humour. Et puis, il vous reconnaissait, même de loin.
Pierre le confirme, il a eu Jean-Claude Gaudin comme professeur d'histoire géo avant sa carrière d'homme politique et l'a recroisé plusieurs fois ensuite.
Ça m'avait beaucoup, beaucoup étonné, se souvenait du nom et du prénom des élèves qu'il avait eus. C'était un professeur qui captait l'attention des élèves, qui était proche des étudiants.
Pierre espère trouver une place dans la cathédrale de la Major cet après-midi. La cérémonie commence à 15h.
Journée d'hommage aujourd'hui à Reims. Journée d'hommage à Karen Mézineau, l'ancienne l'infirmière poignardée à mort il y a un an au CHU de Reims par un patient schizophrène de 59 ans qui ne prenait pas ses médicaments, qui avait déjà attaqué des soignants en 2017 et qui vient d'être considéré irresponsable pénalement. Colère ce matin sur RMC de Luc Thibault. C'est le frère de Karen Mézineau.
Il y a de l'incompréhension parce que il y a eu la première affaire, on se souvient, de 2017. Donc, il a quand même attenté à la vie de 4 personnes. Alors déjà, là, je trouve que il y a eu énormément de bêtises de fait par les magistrats, par les psychiatres, parce qu'il n'aurait jamais dû pouvoir passer à l'acte du fait qu'il aurait dû être sous surveillance déjà avant son procès.
Les rendez-vous continuent. La CGT est convoquée ce matin au ministère du Travail où la ministre Catherine Vautrin présente depuis hier aux partenaires sociaux sa nouvelle réforme de l'assurance chômage avec pour idée de durcir les conditions d'accès aux indemnités en travaillant 8 mois au lieu de 6 comme actuellement pour faire 3,6 milliards d'euros d'économies. Ce rappel tient ce matin, on est le 23 mai, c'est le dernier jour jusqu'à ce soir à minuit pour faire sa déclaration de revenus en ligne pour les départements numérotés de 1 à 19, donc Nice, Marseille, La Rochelle et Caen notamment. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ou presque. Les 50 000 cheminots qui vont travailler pendant les JO cet été vont toucher une prime journalière de 95 euros. Dans la limite de 1900 euros, qu'ils soient en région parisienne ou pas d'ailleurs. Les syndicats, c'est la proposition de la SNCF, les syndicats se laissent jusqu'au 4 juin pour signer cet accord. Et alors la liste s'allonge, je vous le disais. Nouvelle profession qui veut sa part du gâteau, c'est le milieu de la sécurité, qui sera sur le pont, évidemment cet été. Il y a déjà un appel à la grève lundi à l'aéroport de Nice avec la fin du festival de Cannes. Pierre Bourgès pour RMC, vous nous dites que la CGT dans ce milieu de la sécurité menace de faire grève pendant les Jeux.
Oui, la CGT a déposé un préavis de grève illimité pour Charles Dassonville, secrétaire fédéral. Il faut profiter des JO pour renégocier les conditions de travail.
Là, c'est les Jeux Olympiques, un moment festif. Encore une fois, on va appeler les gens de sécurité. Mais au bout du bout, on leur donne quoi? On donne rien. Aujourd'hui, c'est un moment où on peut être en lumière. Il faut un moment qu'on discute réellement de leurs conditions de travail et qu'on mette des vrais salaires en face de ce qu'ils font comme métier.
Des vrais salaires, 2000 euros bruts minimum pour les agents, selon lui. Alors, chaque syndicat a des revendications différentes. La CFDT, par exemple, veut une augmentation des primes de nuit, sans quoi elle fera grève tous les dimanches pendant les JO. Du côté des chefs d'entreprise du secteur, Cédric Paulin, secrétaire national du groupement des entreprises de sécurité privée, affirme avoir déjà répondu à certaines de ces demandes.
En termes de salaire, on a fait des efforts quand même, puisqu'on a signé un accord triennal sur 3 ans pour 2024, 25, 26. Et dès le 1er janvier 2024, il y a eu une augmentation de salaire de 5%. Donc, on a déjà apporté une grande partie de la réponse sur les salaires.
Quant à une possible prime JO, ce n'est pas la priorité des syndicats qui préfèrent plutôt améliorer les conditions de travail des salariés sur le long terme.
Et puis la promesse sera tenue, on a la date, c'est le 23 mai, à un mois donc des Jeux Olympiques, que la maire de Paris, Anne Hidalgo, va plonger dans la Seine pour rassurer sur la qualité de l'eau qui est pointée du doigt ces derniers mois. Anne Hidalgo qui s'est fâchée, tiens, écoutez-la, c'était hier soir, contre tous ceux qui critiquent ces Jeux Olympiques à Paris.
Ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble.
Ras-le-bol, nous dit donc Anne Hidalgo. Et vous entendez déjà le rire de Marion, Marion Bartoli qui est dans ce studio. Salut Marion, vous êtes consultante RMC pour les Jeux Olympiques, bien sûr. Cette expression d'Anne Hidalgo vous fait rire, mais sur le fond?
Non, mais alors, je pense l'expression un petit peu trop triviale pour honnêtement une maire de Paris, mais ça reste que mon sentiment personnel. Je comprends ce qu'elle veut dire. Je pense qu'elle aurait pu l'exprimer de manière quand même un tout petit peu plus sur une sémantique un peu plus poussée que ça. Mais effectivement, on a débattu ensemble, on a débattu avec le président de la République. Il y a des interrogations, il y a des, certainement pour les Parisiens aussi depuis pas mal d'années, des dérangements. Et donc tout le monde se dit, on espère qu'entre guillemets, ça sera une réussite. Et ça, ces interrogations, on peut quand même arriver à les entendre. Maintenant, nous, bien évidemment, on est mobilisés autour du sport, on est mobilisés autour de la fête, on est mobilisés autour des Français et des Françaises qui, on espère, vont performer, vont réaliser des médailles. Mais jusqu'à peine à jouir, je serais peut-être pas allée jusque-là.
Et on en débat justement dans un instant. Vous nous appelez au 3216. Marion Bartoli, reste avec nous. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 sur RMC.
Le parti pris.
Et on est avec notre consultante pour les Jeux Olympiques, Marion Bartoli. Rebonjour Marion.
Rebonjour.
Marion, d'accord ou pas d'accord avec Anne Hidalgo, donc, qui tense les peines à jouer? Alors, on a bien compris que l'expression vous plaisait pas beaucoup.
Oui, mais le ton m'a fait beaucoup rire.
Le ton d'Anne Hidalgo. Mais sur le fond, est-ce qu'elle a pas raison à un moment de nous dire que quand même on est des ronchons, quoi?
Non, mais sur le fond, qu'elle ait raison, bien évidemment, c'est une fête. Pour moi, qui représente la plus grande fête dans le sport de haut niveau, même dans le sport tout court, c'est une manière pour le peuple français de se rassembler derrière les athlètes, d'avoir un engouement populaire. C'est un petit peu comme une Coupe du Monde, sauf qu'il y a beaucoup plus de sport. Et c'est une fois tous les 100 ans en France, donc bien évidemment qu'il faut s'en réjouir. Mais après, pour les Parisiens qui ont été quand même assez embêtés pendant pas mal d'années, de mois, de se dire que les plans de circulation, donc on les connaît pas tout à fait, qu'il va parfois devoir y avoir des QR codes pour rentrer chez soi, bon, qu'on se pose quelques interrogations, je peux arriver quand même à les comprendre, mais qu'il y a un engouement populaire, là-dessus je la rejoins, il faut effectivement que toute la France entière soit mobilisée derrière cet événement majeur et global qui va mettre notre pays en avant aux yeux du monde entier.
En fait, quand je vous entends, Marion, je me dis que finalement les JO sont un peu le dommage collatéral d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un agacement sur Anne Hidalgo depuis des années d'un certain nombre de Parisiens, parce qu'effectivement, c'est compliqué de circuler, parce que bon, et donc on se retrouve avec des JO qui prennent
la lumière de ça. Ouais. Oui, mais puis surtout on arrive aux Jeux Olympiques au bout de 10 ans d'un mandat finalement à la mairie de Paris. Donc avec un engagement qui est certainement monté en puissance. Moi après je suis pas du tout parisienne, mais ce que j'entends et ce que je ressens c'est ça. Et c'est vrai que pour venir à Roland-Garros chaque année à Paris, donc au mois de juin, je vois très bien les problèmes de circulation.
Et là, on constate.
Donc, je me dis, si on multiplie ça par le nombre de sports, bon, on peut éventuellement envisager quelque chose.
Et on en débat avec vous tous. Il y a déjà Damien au 32-16. Bonjour Damien.
Bonjour Apolline, bonjour Marion.
Damien, bonjour. Qui est chef d'entreprise dans les transports en Gironde. Damien, est-ce que vous êtes plutôt team peine à jouir ou est-ce que vous vous dites qu'il faut qu'on se réjouisse?
Moi, j'ai hâte de voir les Jeux, mais par contre, j'ai pas hâte de voir la flamme olympique me casser les pieds toute la journée. À Bordeaux, ils te font... Alors, on vient nous casser les pieds avec l'écologie. Ils nous font un Saint-Émilion Bordeaux, Bordeaux, Libourne, Libourne, Bordeaux. Déjà, ça me casse les pieds. Ça me prive de travailler entre 10h et 17h à peu près. Donc, en gros, ma journée, elle est perdue. Après que j'aime le sport dans son ensemble.
Oui, mais Damien, moi ça me fait quand même bien marrer parce que pardon, mais enfin vous êtes le Bordelais. Vous comprenez qu'à Paris, c'est-à-dire que vous ça va être une journée la flamme et vous êtes déjà en train de grogner. Nous, sachez que ça fait déjà un mois que tout le centre de Paris est bloqué.
Apolline, donc là... j'ai été livré chez vous dans le 5e il y a pas longtemps. J'ai vu les travaux qu'elle fait. Je ne veux absolument pas d'un ou d'une mère comme ça
Vous voyez, c'est bien ce que je disais. C'est que les JO sont le dommage collatéral. Marion, la flamme, elle va passer effectivement. Elle est en train de traverser toute la France. Les villes payent très cher d'ailleurs pour que la flamme passe par chez eux. Mais en même temps, Damien, voyez, vous grognez sur le transport, mais Marion, c'est quand même un très très bel événement cette flamme.
Ça, c'est évident. Mais après, le souci aussi, c'était qui porte la flamme. En fait, on a eu des débats autour de
c'est
tout.
Ça. C'est récurrent.
C'est
un pays de polémique.
Non, mais c'est récurrent. C'est récurrent. Il y a eu de Joule à Marseille. Il y a eu certains acteurs, certaines actrices qui portent la flamme. Certains se disent que finalement, c'est plus quand même un événement autour des sportifs. Donc, les sportifs devraient être plus mis en avant. D'autres anciennes, très grandes gloires du sport français, médailles olympiques, n'ont même pas été contactées pour porter la flamme.
Ça vous attriste.
Alors, on en discutait avec Estelle hier, Estelle Denis, ouais. Et on était sur le fait que oui, pour moi, il faut arriver à ouvrir les Jeux à d'autres perspectives, à d'autres personnes, à des entourages différents que les jeunes, justement,
que peut-être... Que ce soit sportif et que ce soit populaire.
Voilà, vont plus s'identifier peut-être à des chanteurs, à des chanteuses, à des acteurs, à des actrices qu'à des sportifs. Mais pour nous, en revanche, ce qui est vraiment obligatoire, c'est que les derniers relais de la flamme, et je vais même pas jusqu'à celui ou celle qui va allumer la vasque, mais vraiment les derniers relais soient autour des sportifs. Là, il faut que l'image soit autour du sport. Il faut vraiment que ça soit un consensus tourné autour du sport. Ça, on y tient, enfin, franchement, assez fortement. Mais, voilà, on espère effectivement que ça sera une immense fête comme ça.
On
et pourquoi pas sur la scène, on verra comment ça sera à la fin, avec tous ces périmètres de sécurité.
Et je précise une chose, c'est que les enfants sont très mobilisés dans toutes les écoles de France. Moi, je suis assez frappée effectivement par les miens, qui apprennent des chansons sur les Jeux Olympiques, qui ont reçu cette fameuse pièce de 2 euros. Tous les petits-enfants de France sont très enthousiastes et ils entraînent parfois même leurs parents. Je trouve, ne serait-ce que ça va peut-être créer une forme de générations quand même d'enfants qui auront vécu ce moment et qui, eux, y voient à la fois le caractère sportif et national.
Oui, un engouement populaire, absolument. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec les JO, surtout de 92. C'était les premiers JO où j'ai vraiment réalisé ce qui est en train de se passer et donné cette force de l'exemple à énormément de valeurs. Je pense que c'est la raison pour laquelle aussi le président de la République tente d'avoir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Ce sont des figures qui sont représentées de manière très majoritaire auprès des jeunes. Donc on espère qu'ils vont avoir un engouement pour le sport et qu'ils vont continuer surtout à pratiquer le sport après les JO.
Et qu'on pourra peut-être garder cet esprit, donc bon enfant, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Marion.
Merci à Pauline.
D'être passée donc par Apolline Matin, Marion Bartoli, notre consultante pour les Jeux Olympiques, bien sûr. Toute l'équipe est prête. Et RMC, c'est la radio officielle des Jeux Olympiques. Il est 8h19, Arnaud Demange.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Salut,
et on reste
Arnaud.
Dans le sport. Ah. On reste dans le sport à fond. Ce soir, sortez les pop-corns. Charles va être content. Il y a Ligue des Champions. Et oui, car c'est le débat des Européennes entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Suspense, qui de la droite ou de la droite de la droite remportera ce débat. En tout cas, la gauche n'y sera pas. Pas invitée. Ça fait un moment que la gauche est plus conviée aux soirées électorales d'envergure. Hein.
Dis donc, tu viens plus ce soir.
Bah oui.
Quel plaisir.
Mais oui. Alors, le débat aura lieu sur France 2, un jour de grève contre la réforme de l'audiovisuel public. On a échappé à la catastrophe. On a échappé au débat sur deux tabourets de cuisine devant une table en formica, avec deux ficus pour la déco et Olivier Mazerolle qu'on a sorti de la naphtaline. Donc là, le débat aura lieu avec du personnel privé dans un studio privé. Jolie métaphore de la réforme de l'audiovisuel public voulue par Rachida Dati. Je vous cache pas, je le vis pas bien ce débat. Parce qu'avant, c'était des vieux qui débattaient. Vous voyez, François Mitterrand, Philippe Seguin, 92, c'était des brontosaures avec des cravates. Mais là, un débat Attal-Bardella, ils ont 10 ans de moins que moi, quoi. Ils sont plus jeunes que moi. Ils ont 63 ans à eux deux. À eux deux, ils n'ont même pas l'âge d'aller à la retraite. Après, bon, aussi, si le kiff des jeunes d'aujourd'hui, c'est de faire des débats en soirée sur France 2, un jour de grève sur les normes européennes, je vais vous dire, je suis content d'être un senior. Et d'être... Par contre, c'est un peu humiliant pour Valérie Ayer. C'est une tête de liste, mais elle n'est pas invitée, elle. Elle devait porter le message de Macron, mais au final, Macron envoie Gabriel Attal porter le message de Valérie Ayer qui devait porter le message d'Emmanuel Macron.
Oui, oh, c'est ça.
Ils auraient au moins pu faire un featuring comme dans les clips de rap, tu vois, rester à côté, faire la choriste de Gabriel Attal quand il dit « Nous sommes engagés pour l'Europe qui est le summum de la construction interétatique. » Oui, au summum, on prend des risques, on fait des lois en Europe, ça claquerait.
Bah, ça claquerait, c'est clair. Ouais. Une affaire qui secoue le monde de l'éducation. Arnaud, un professeur de lycée catholique, a proposé à ses élèves de poser nu en soutien à la Palestine.
Oui. Et il a
été... Il y a la totale.
Il a été mis à pied. Alors, l'initiative a choqué. Pas tellement le côté prof qui veut voir des lycéens tout nus. Ça, ils ont l'habitude. C'est un lycée catholique. C'est plus le côté soutien à la Palestine qui leur a paru surprenant. Et je comprends, dans ce milieu-là. Le jour où Vincent Bolloré organise sur CNews un concours de drag queen LFI qui vont réciter des chroniques de Guillaume Meurice pour aider les civils de Rafah, bah, Pascal Pro, il va faire une drôle de tête. C'est normal. Donc le prof est allé voir ses élèves. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Tu as déjà visité une prison turque? Tu veux aider la Palestine? La presse a donné le nom de ce professeur. Et j'ai découvert un truc, c'est qu'il n'en est pas à sa première fantaisie, cet homme-là. En 2022, il a essayé de se présenter à la présidentielle.
Ah oui,
je vous jure, c'est vrai. Alors avec des idées comme ça, évidemment, il n'a pas réuni les 500 parrainages. C'est très dommage. Il serait allé voir Netanyahou et le Hamas.
Et si on faisait l'amour tout nu?
Bah non, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Demandez à Benjamin Griveaux ce qu'il en pense. Oh, heureusement qu'on l'a pas élu, ce prof. Heureusement qu'on l'a pas élu. Vous imaginez les vœux en fin d'année? Française, Français, cette année sera une année de paix. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de défiler entièrement nu. On va commencer. D'abord, le Premier ministre. Monsieur Jack Lang, c'est à vous.
Tout à fait, avec plaisir, monsieur le Président. Pour la paix, sortez les chars et les confettis. Pour Ramallah. Ramallah. Oh, 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 Ramallah. Oh, 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 Ramallah.
Afrique Simone.
Le salon Vivatech, Arnaud, tout autre chose a ouvert ses portes pour sa 8e édition. Et parmi les secteurs les plus représentés, il y a l'intelligence artificielle.
Oui, c'est la tendance de l'année. Alors, il y a 2 ans, la tendance, c'était le métaverse. Mm. Vous vous souvenez du métaverse?
Ah ouais.
Le futur d'Internet, non. Avec des casques de réalité virtuelle, des avatars, le monde en 3D. Résultat, on a tous essayé un casque pendant 15 minutes, on a eu mal au cœur pendant 3 heures, et hop, fini le métaverse, ciao les milliards pour Mark Zuckerberg. Donc là, la tendance, c'est l'intelligence artificielle. Macron y croit vachement. Il a même tweeté une petite blague. Je vous jure, c'est vrai, il a mis « Avec nos talents français de l'intelligence artificielle, il y a de l'avenir en France. Oh » Il a de l'avenir en France. Fallait la trouver.
Ah ouais.
C'est un métier. C'est un métier. Alors sachez qu'Emmanuel Macron fera ma première partie le 15 juin au Casino de Paris. J'avais demandé à Elodie Pou, mais je ne vais pas me priver d'un talent pareil.
Bien sûr.
Alors l'intelligence artificielle, il y a quand même un problème. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. C'est en train d'assassiner tous les artistes, comme les musiciens, les dessinateurs, parce que l'algorithme est nourri avec toutes les créations et les recrache gratos. La dernière profession en date à être impactée, c'est les comédiens. Là, il y a OpenAI, la boîte qui fabrique ChatGPT, qui a volé la voix de Scarlett Johansson pour son nouveau modèle. Et en France, c'est le doublage qui risque d'être impacté. Les doubleurs font signer une pétition là contre le vol de voix. Vous imaginez, si les films étaient doublés par une IA, ça rendrait quand même moins bien.
C'était pas ma guerre. J'ai vu les tripes de mon copain Bobby.
Vous voyez, on est moins dans l'émotion. On a moins le truc. Et un jour, ce sera les films français.
Comment ? Vous êtes juif ? Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif.
Ça manque un peu de fantaisie.
Allez, je vous garde quand même.
Un peu moins, ouais. Où ça, tiens ?
Messire. Un sarrasin, messire, un sarrasin dans une chariote du diable.
Quoi que ça a son petit succès, quand même. Ouais, c'est un personnage joué par Christian Clavier d'ordinateur. Ça, c'est une blague de tellement bonne qualité qu'une intelligence artificielle aurait même pas pu la trouver.
Mais bien
même
sûr.
Pas
sûr.
Pas
la
voix de Pauline de Malherbe. Attention, attention.
Attention, et la voix de Sophie Binet dans un instant, parce qu'il est 8h24 et dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est la patronne de la CGT, Sophie Binet. On a vraiment l'impression qu'en ce moment, c'est le moment de demander, hein, après la SNCF, après la RATP. Maintenant, c'est les agents de sécurité qui vont vouloir leur prime pour les JO, la réaction de Sophie Binet. Et puis, bien sûr, la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement qui veut encore mettre la pression sur les chômeurs. Sa réaction, c'est dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur BFM TV et RMC. Bonjour Sophie Binet.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale de la CGT. Alors que cette interview n'avait même pas commencé, je vous ai vu lever les yeux au ciel. Parce qu'à l'instant, sur BFM TV, alors que Christophe et Adeline me demandaient qui je recevais, je disais, bah, c'est le moment de demander au gouvernement. Le gouvernement accorde pratiquement tout avant les JO. Pour votre plus grand plaisir, disais-je. Et je vous ai vu lever les yeux au ciel. Bah, c'est vrai quand même, non? En ce moment, on menace de grève pour les JO et on obtient tout.
Eh bien écoutez, non, pas du tout, puisque malheureusement, le gouvernement est en train d'annoncer une réforme de l'assurance chômage qui est, ça serait la 5e fois qu'il ferait une réforme de l'assurance chômage depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, donc il y a un acharnement déjà qui est assez incompréhensible et c'est la réforme de l'assurance chômage la plus violente depuis 7 ans. Si cette réforme s'applique, elle pénaliserait plus de 1 million de personnes, notamment les jeunes, les précaires et les seniors, et les conséquences très concrètes, c'est que ça serait beaucoup plus difficile d'avoir accès aux allocations chômage, parce que pour pouvoir être indemnisé, il faudrait travailler au moins 8 mois.
Pendant les 20 mois précédents.
Hein. Exactement. Et donc, ça pénalise directement toutes celles et ceux qui sont dans des secteurs dans lesquels l'emploi est par nature précaire. Dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la culture, il y a plein de secteurs dans lesquels on ne peut pas travailler à l'année parce qu'il n'y a pas de boulot à l'année.
Et on va y revenir parce qu'effectivement, il y a au fond ces deux dossiers en parallèle. Et presque quand je vous écoute, je me demande si le gouvernement ne joue pas un peu justement, comme on dit, bon flic, mauvais flic, c'est-à-dire d'un côté on donne, pour de l'autre côté peut-être mieux retirer. L'assurance chômage et cette réforme, on va en parler dans un instant, vous êtes convoqué à 19h tout à l'heure par la ministre du Travail justement pour parler du contenu de cette réforme qui veut mettre la pression aux chômeurs, mais malgré tout, je vous interroge tout de suite sur cette question des grèves et des primes aux JO. Il y a eu hier cette grève à la SNCF Île-de-France. Il semble que la direction de la SNCF ait accepté d'octroyer jusqu'à 1900 euros de primes pour cet été aux agents qui travailleront, 95 euros par jour. Ça représente 50 millions d'euros pour la SNCF. Et pourtant, semble-t-il, vous n'acceptez pas le deal ?
Écoutez, la décision est en train d'être prise, donc moi je ne la connais pas. On ne décide pas tout seul, on consulte les syndiqués, les salariés, les cheminots. C'est les cheminotes et les cheminotes qui vont décider. Et donc ça sera connu dans les prochaines heures. Mais là, je ne peux pas vous l'annoncer. Moi, je ne connais pas la décision.
Sudrail s'est déjà exprimé et Sudrail dit qu'il ne signe pas en l'état, qu'il se laisse encore le temps de réfléchir. Mais honnêtement, jusqu'à 1900 euros de prime, c'est pas mal quand même.
Écoutez, je n'ai pas négocié cet accord. Ce que je sais, c'est que c'est normal quand on a des contraintes supplémentaires qui seront importantes avec les Jeux Olympiques. C'est normal que ces contraintes soient reconnues. Et donc, c'est normal qu'il puisse y avoir des négociations pour les reconnaître et puis aussi pour organiser le travail des cheminots et des cheminotes pendant les Jeux.
Ils demandaient 50 euros par jour. Oui. Ils ont obtenu 95 euros par jour.
Écoutez, encore une fois, c'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est aux cheminots et aux cheminotes.
Oui, vous avez un avis quand même, vous êtes la patronne de la CGT.
Eh bien non, justement, je n'ai pas d'avis sur tout parce que ça n'est pas moi, contrairement à Emmanuel Macron, ça n'est pas moi qui décide toute seule de tout. Là, en l'occurrence, je ne décide pas. Ce sont les cheminots et les cheminotes qui décident et c'est une très bonne chose. Ça s'appelle la démocratie.
Ça s'appelle la démocratie. Je rebondis quand même sur ce que vous dites à l'instant. Ça veut dire que vous estimez qu'Emmanuel Macron ne joue pas le jeu de la démocratie.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui est très frappant, en fait, dans la période, c'est que, systématiquement, dans toutes les tensions qu'il peut y avoir dans le pays, le gouvernement est incapable de régler aucun conflit. Au contraire, il passe son temps à mettre de l'huile sur le feu. Quoi de commun entre la réforme des retraites, les émeutes des quartiers populaires, la Nouvelle-Calédonie, les JO, la SNCF, la mobilisation des étudiants à Sciences Po, etc. C'est qu'à chaque fois, le gouvernement, au lieu de régler le conflit, met de l'huile sur le feu. Et je pense que c'est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, malheureusement. C'est qu'il pense qu'il a la vérité sur tout seul, qu'il peut tout régler tout seul, sans en parler à personne, et on voit que ça met le pays en feu. Donc il faut changer de méthode et changer évidemment de cap politique.
Si on reste sur la question de la SNCF, vous avez vu que le gouvernement se dit très mécontent des accords qui ont été obtenus. Là, on n'est pas sur seulement la question des primes pour cet été, mais aussi l'accord qui a été obtenu, notamment par les contrôleurs qui vont pouvoir partir 18 mois plus tôt que l'âge légal de départ à la retraite en étant payés 75%. À votre place, hier, c'était le patron des Républicains, Éric Ciotti, qui dit carrément qu'il faut privatiser la SNCF.
C'est une honte de dire ce genre de choses. Il suffit d'aller voir en Grande-Bretagne pour voir ce que ça donne de privatiser le réseau ferroviaire. Les trains, c'est une catastrophe en Grande-Bretagne avec des accidents mortels du fait de la privatisation. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que le gouvernement a inventé un nouveau motif de licenciement. Maintenant, on licencie les patrons qui signent des accords avec les salariés.
Vous faites référence au fait que Monsieur Farangeau, le patron de la SNCF, n'aura pas son mandat renouvelé après les Jeux Olympiques. Et on le sent bien. C'est une forme de sanction. Bruno Le Maire, ici même, lors d'une interview avec moi il y a deux semaines, disait son incompréhension face au patron de la SNCF, qui ne l'avait pas consulté, semble-t-il, pour cet accord. Et on a appris dans les heures suivantes qu'il ne serait donc effectivement pas renouvelé après les JO.
Oui, c'est très choquant. En fait, j'aurais aimé que Bruno Le Maire dise son incompréhension vis-à-vis des décisions du patron de Stellantis, par exemple, qui a décidé de s'octroyer une rémunération de 36 millions d'euros, c'est-à-dire plus que ce que va coûter cet accord permettant des départs anticipés pour près de 200 000 cheminots, et ben pour le même montant.
Mais là, vous mélangez entreprise privée, entreprise publique.
Oui, sauf que les actions de cette entreprise privée ont un impact sur tout le pays, puisqu'il s'octroie une rémunération de 36 millions d'euros, ce patron de Stellantis, et dans le même temps, il licencie et il ferme des usines en toute impunité, et le gouvernement ne lève pas le petit doigt. Donc, c'est quand même grave que la seule chose que fait le gouvernement pour recadrer des patrons, c'est recadrer les patrons qui négocient. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que
vous êtes du côté du patron, là.
C'est que le gouvernement recadre tous les patrons qui ne négocient pas et qui passent leur temps à faire exploser leur rémunération, celle des actionnaires. Pourquoi est-ce que Bruno Le Maire n'a pas convoqué le patron de Total qui vient de décider de faire traverser à Total l'Atlantique ? Maintenant, Total sera à la bourse de New York et plus à la bourse
de Paris.
C'est
pas encore complètement fait, mais c'est, on le sent bien, l'objectif, en tout cas, c'est le projet de
et
Total.
Et le gouvernement s'en fiche. C'est grave.
Vous pouvez pas
même
dire qu'il s'en fiche, c'est-à-dire qu'il
a rien dit.
Ils disent leur mécontentement. Bruno Le Maire dit que ça lui plairait pas du tout, et Emmanuel Macron lui-même, dans les colonnes de l'Express cette semaine, dit qu'il n'en est absolument pas satisfait et qu'il va tout faire pour que Total.
Et qu'est-ce qu'il attend pour le convoquer? Je lui pose la question. Et le gouvernement a quand même quelques leviers d'action sur Total, puisque je rappelle que tous les bénéfices de Total sont liés à la diplomatie internationale de la France. C'est pas d'un claquement de doigts que Total récupère des marchés à l'international. C'est parce qu'il est dans le Falcon présidentiel, dans un certain nombre de déplacements
vraiment diplomatique du gouvernement et du président de la République. Vous estimez carrément que là, il faudrait que Emmanuel Macron, le gouvernement, utilise tous les moyens de pression possibles pour empêcher Total de passer, la cotation de Total de passer sous pavillon de New York. Oui, je pense que le gouvernement doit agir sur les multinationales françaises. C'est plus possible qu'on leur laisse la bride sur le cou. Le résultat, c'est quoi? C'est que nous avons dévoilé.
Vous avez apporté ici une carte. Hein.
Voilà. La carte des suppressions d'emplois et menaces sur l'emploi depuis septembre 2023. Voilà. C'est plus de 130 sites en France qui sont actuellement avec des plans de licenciement ou des menaces sur l'emploi. Pourquoi? Parce qu'on laisse la bride sur le cou aux multinationales et qu'on leur laisse faire ce qu'elles veulent d'un point de vue économique. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 000 emplois qui sont en train de disparaître en France, essentiellement dans l'industrie. Et que fait le gouvernement? Il veut imposer une réforme de l'assurance chômage d'une violence inédite. C'est scandaleux. 60 000 emplois menacés, dites-vous, avec effectivement cette carte à l'appui. C'est à mettre au regard des 90 000 emplois que le gouvernement estime pouvoir créer en mettant plus de pression sur les chômeurs. J'en viens bien sûr à cette réforme de l'assurance chômage. Vous irez donc, je le disais, à 19h tout à l'heure, Sophie Binet, au ministère du Travail pour être consultée. Est-ce une véritable consultation d'ailleurs?
Pas bonne question. Malheureusement, le gouvernement a déjà ficelé sa réforme et il sait déjà ce qu'il veut faire. Il a déjà tout décidé tout seul.
Et la preuve,
il voulait l'annoncer avant même de nous recevoir.
Et ce qu'il y a d'ailleurs donc dans cette réforme, c'est l'idée notamment de devoir avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour pouvoir prétendre obtenir l'assurance chômage. Ça représenterait 3,6 milliards d'euros pour les caisses de l'État. Et la ministre du Travail dit que ça pourrait créer jusqu'à 90 000 emplois.
C'est totalement fantaisiste. J'ai envie de lui demander quel est son mode de calcul, quelle est sa source. Aucun expert n'a jamais évalué les emplois créés par les précédentes réformes de l'assurance chômage, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu d'évaluation de ces réformes et parce qu'aucun expert n'a jamais fait le lien entre une réforme qui s'attaque aux droits des chômeurs et une réforme qui fait reculer le chômage. Il n'y a pas de lien, cette réforme ne va pas créer d'emplois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette carte de France sur les suppressions de postes, ça, c'est pas au doigt mouillé. C'est des remontées réelles de toutes les usines qui sont en train de fermer en France et que le gouvernement laisse fermer. C'est là-dessus qu'il faut agir au lieu de raconter que par magie, ils vont créer 90 000 emplois en prenant les droits des chômeurs.
Il précise qu'il y aura en échange une sorte de bonus-malus pour les entreprises, pour les inciter à proposer des contrats plus longs. Vous y croyez ?
Bah écoutez, ce bonus-malus existe déjà, il est homéopathique et donc il ne fait peur à personne. La preuve, la précarité, elle ne cesse de progresser. Si le gouvernement veut vraiment lutter contre la précarité, il faut réformer le code du travail pour rendre beaucoup plus coûteux le fait d'abuser des CDD et des contrats d'intérim, par exemple, chose que le gouvernement ne fait pas du tout.
Il n'y a pas de modification, en revanche, de la durée d'indemnisation.
Écoutez, on verra ce soir. On n'a pas encore tous les éléments de cette réforme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais ce soir au rendez-vous. C'est pour
avoir
l'ensemble.
Vous avez hésité?
Oui, évidemment, puisque on sait a priori que notre avis importe peu à la ministre et au gouvernement. Mais nous y allons ce soir pour avoir l'ensemble des informations parce qu'il y a un impact sur plus d'un million de personnes. Donc c'est très important que le gouvernement dise la vérité et qu'enfin on puisse évaluer les conséquences de cette réforme violente de façon à permettre aux gens de se mobiliser pour empêcher cette réforme.
Se mobiliser, on va y revenir, j'entends bien ce qu'il y a derrière, mais pour rester encore sur ce que vous allez pouvoir vous dire ce soir avec la ministre, semble-t-il la manière ensuite dont sera appliquée cette décision, ça pourrait être par décret, ça veut dire qu'il n'y aura pas de loi, donc pas de débat au Parlement. Est-ce que la méthode également vous choque ?
Oui, tout à fait. C'est un scandale démocratique. La démocratie sociale est bafouée, la démocratie politique l'est aussi. C'est la raison pour laquelle nous nous félicitons qu'une proposition de loi soit déposée à l'Assemblée. Elle va être examinée le 13 juin prochain et elle doit permettre à tous les députés à s'exprimer sur cette réforme de l'assurance chômage et à rejeter le projet du gouvernement.
Déposé par qui ?
Déposé par le groupe Liot. C'est un petit
c'est
groupe.
Le groupe qui avait déjà failli faire basculer le gouvernement avec notamment Charles Le Courson.
Tout à fait. Un groupe centriste, on va dire, à la l'Assemblée nationale, ce qui doit permettre à l'ensemble de l'Assemblée de pouvoir voter cette proposition de loi et ainsi de mettre en échec la réforme du gouvernement. Donc on se donne rendez-vous le 13 juin prochain à l'Assemblée nationale et on interpelle tous les parlementaires pour voter cette proposition de loi et ainsi faire échec à cette réforme violente du gouvernement.
Et décider de notre mobilisation, voilà le mot que vous avez eu à l'instant, Sophie Binet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez l'idée de grève éventuelle, de réaction, de...
Eh bien, écoutez, ces
quelle
grèves.
Quelle forme prendra cette mobilisation?
Ces grèves, elles existent déjà. J'étais à Cannes la semaine dernière avec les salariés du festival. Beaucoup de précaires qui appellent à la grève pour dénoncer cette réforme de l'assurance chômage, qui, si elle était adoptée, ferait que leur métier serait intenable, puisque des festivals, on voit bien que par nature, il n'y en a pas toute l'année. Et donc, si la réforme était adoptée, ils n'auraient plus de revenus pour vivre. Donc c'est ce type d'action.
Là, c'est précisément la question du avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois.
Oui, tout à fait. C'est exactement cette question-là. Vendredi, la CGT organise des actions dans de très nombreuses agences de Pôle emploi pour dénoncer la réforme et mettre en visibilité la situation des privés d'emploi. Je rappelle que aujourd'hui, c'est plus de 50% des personnes qui touchent des allocations chômage qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc on a des privés d'emploi qui sont dans une situation très dure. Et puis la deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que cette question, c'est la nôtre à toutes et tous, puisque on sait que la moitié des salariés, à un moment dans leur parcours professionnel, peuvent être concernés par le chômage. Donc le chômage, c'est pas seulement la question des chômeurs aujourd'hui, c'est la question de tous les salariés. Et Emmanuel Macron, s'il fait cette réforme, c'est d'abord pour nous voler 4 milliards d'euros, ça on l'a compris, et puis ensuite, c'est pour tirer les droits de tous les salariés vers le bas en nous forçant à accepter n'importe quelle condition de travail, de salaire, parce que nous retrouverons la peur du chômage et la peur du licenciement.
Vous avez plusieurs fois, depuis le début de cette interview, évoqué l'idée que la démocratie était bafouée. Il y a des élections dans un peu plus de 2 semaines, les élections européennes. Est-ce que vous allez vous engager davantage ? Est-ce que vous invitez ceux qui nous écoutent à voter pour telle ou telle liste ?
Oui, la CGT appelle d'abord à aller voter le 9 juin prochain parce que ce qui se passe en Europe est très important pour notre quotidien de travailleuses et de travailleurs. La CGT ensuite appelle à, dénonce le danger de l'extrême droite pour le monde du travail. Il n'a pas de pire ennemi pour les travailleuses et les travailleurs que l'extrême droite. On a regardé leur bilan quand ils étaient au Parlement de Strasbourg et à chaque fois que les droits des travailleuses et travailleurs étaient en jeu, soit ils étaient absents, c'est leur spécialité, soit ils votaient contre l'augmentation des salaires, la taxation des multinationales, les droits des femmes. Voilà, donc leur bilan, on le connaît, on le sait qu'ils sont très dangereux. Et puis enfin, la semaine prochaine, la CGT va interpeller les candidats aux élections européennes, hors extrême droite à qui nous ne parlons pas, pour leur demander de prendre position sur les questions sociales, sur les questions industrielles et sur les questions environnementales.
Est-ce qu'à l'issue de cette rencontre, vous pourriez dire, voilà, la CGT vote pour tel ou tel ?
À l'issue de cette rencontre, on publiera les réponses des candidates et des candidats et les travailleuses et les travailleurs pourront les comparer avec les propositions que nous portons. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut réorienter en profondeur la construction européenne, mettre fin à cette Europe du dumping social et du dumping fiscal et construire enfin une Europe des travailleuses et des travailleurs.
Sophie Binet, Emmanuel Macron est en ce moment même en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous estimeriez, comme la France insoumise, que la France est là-bas une puissance colonisatrice ?
La Nouvelle-Calédonie, c'est le dernier conflit colonial. Je suis très inquiète par ce qui se passe là-bas. Nous sommes très choqués par la façon dont Emmanuel Macron a traité le sujet de façon extrêmement nonchalante, on va dire au mieux, avec une multiplication de provocations envers les habitants de Nouvelle-Calédonie. Oui, provocation, bien sûr. Prendre au gouvernement Sonia Backès, qui représente l'aile dure des loyalistes en Nouvelle-Calédonie, c'est une provocation. Remettre en cause les accords de Nouméa en remettant en cause le corps électoral, c'est une provocation.
Enfin, le corps électoral, dans les accords de Nouméa, il y avait déjà l'idée d'aller progressivement vers un dégel du corps électoral.
Oui, sauf que ça
c'est,
devait
c'est,
se faire.
C'est pas sorti du chapeau.
Ça devait se faire toujours dans un cadre de dialogue. Ce cadre de dialogue a été rompu par le gouvernement. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement retrouve la voie du dialogue, mette en place une médiation extrêmement rapide avec des médiateurs qui rassemblent et qui sont indépendants pour pouvoir apaiser la situation. Là, c'est vraiment la méthode Macron qui est responsable de ce conflit qui était tout à fait prévisible. La CGT, elle travaille en lien avec le syndicat Kanak, l'USTKE, que j'ai rencontré il y a 8 mois. Il y a 8 mois déjà, ils m'ont dit, tu vas voir, ça va mal se passer, malheureusement. Et malheureusement, tous les observateurs
avaient prédit ce qui est en train de se passer. Donc vous estimez pour le coup qu'Emmanuel Macron va aujourd'hui tenter de solutionner une situation qu'il a lui-même créée.
Exactement.
Sophie Binet, la réforme de la fonction publique, les négociations, les discussions sont en cours, il sent que ça se passe pas très bien. Le ministre de la fonction publique n'a pas l'air de trouver beaucoup d'oreilles attentives du côté des syndicats. Il avait immédiatement proposé, avant même le début de ces discussions, la fin du statut, donc du statut du travail à vie pour la fonction publique, pour les fonctionnaires. Est-ce que ça peut quand même aboutir ou est-ce qu'effectivement les discussions sont au point mort?
Bah écoutez, nous sommes très inquiets sur la façon dont se déroulent ces discussions. D'abord, c'était quand même très étonnant que le ministre annonce dans la presse qu'il voulait permettre de licencier les fonctionnaires en dehors même des concertations, sans même nous le dire à nous. Ensuite, cette annonce, évidemment que c'est une provocation complète. Et c'est très dangereux dans un moment où l'extrême droite peut arriver au pouvoir.
Pourquoi ?
Parce que le statut de la fonction publique, c'est une protection pour notre état de droit et pour notre démocratie. Si, quand l'extrême droite arrive en direction de municipalité ou arrive, catastrophe, en direction de l'État, elle peut licencier tous les hauts fonctionnaires et remettre une administration à sa main, ça veut dire une rupture pour l'état de droit. C'est d'ailleurs ce que Donald Trump veut faire aux États-Unis, où il veut changer toute la haute fonction publique pour reprendre en main l'administration
américaine. Mais là-bas, c'est légal.
Là-bas, c'est
effectivement.
Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que ça devienne légal en France pour garantir d'avoir des fonctionnaires au service de l'intérêt général.
Sur la question de la rémunération, on a bien compris votre inquiétude sur le plan démocratique. Sur la question de la rémunération, l'idée d'avoir une rémunération davantage au mérite et moins sous une forme de grille avec les catégories A, B, C des fonctionnaires. Est-ce que ça, vous vous dites, au fond, c'est peut-être dans l'air du temps et c'est peut-être nécessaire?
Bah écoutez, ça fait encore partie des provocations. Je pense que tous les fonctionnaires...
J'avais été frappée sur RMC du nombre de témoignages, y compris de fonctionnaires la fonction publique, qui disaient au fond qu'ils y étaient plutôt favorables parce qu'eux étaient frustrés parfois de ne pas pouvoir envisager une augmentation de leurs revenus en fonction de leurs mérites.
Mais en fait, ce qui est très frustrant pour les fonctionnaires, c'est d'être si mal payés. On a les fonctionnaires parmi les pays de l'OCDE qui sont les moins bien payés. Les infirmières en France sont particulièrement mal payées, les enseignants et les enseignantes aussi, les médecins hospitaliers aussi. Donc il y a besoin de relever le niveau de rémunération dans la fonction publique parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est un problème d'attractivité. C'est pour ça que c'est un non-sens de prétendre licencier les fonctionnaires ou modifier leur grille de rémunération à la baisse, alors que l'enjeu, c'est d'attirer des talents, d'attirer davantage de fonctionnaires parce qu'aujourd'hui, notre fonction publique, elle peine à recruter. On a des soignantes qui, par centaines, quittent nos hôpitaux publics parce qu'ils ne se retrouvent plus ni dans la rémunération, ni surtout dans les conditions de travail, dans la façon dont on les fait travailler. L'alarme, elle est là, c'est à ça qu'il faut répondre.
Merci Sophie Binet d'être venue répondre à mes questions ce matin. Secrétaire générale de la CGT, cette rencontre donc tout à l'heure à 19h avec la ministre du Travail, on l'a bien entendu, vous serez prête à appeler à la mobilisation s'il n'y a pas davantage d'écoute et de démocratie. Merci à vous. 8h52 sur RMC BFM TV.